Radio de la Paix, il est 12h. Le journal du midi. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix pour cette édition de la mi-journée. La Radio de la Paix est en deuil. Son directeur précurseur, journaliste béninois, est décédé hier jeudi 7 mars 2024. Un hommage lui sera rendu dans cette édition avec Francis Cassier. Nous recevrons également le chef de service des programmes, Monsieur Brouconan Bertin, également pour un hommage. Et puis ce 8 mars 2024, c'est la journée internationale des droits de la femme. Et à l'instar des institutions ivoiriennes, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme célèbre cette journée en mettant en avant la participation des femmes et des filles à la paix. En République démocratique du Congo, Dr Denis Mukwege appelle à un report du retrait de la MINUSCO, la mission de maintien de la paix dans le pays. Et en fin d'édition, l'invité de la rédaction, Serge Digbaye, directeur régional de l'OCPV, entendait l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, parlera avec notre correspondant à Oudéni Touré Labas de l'exportation du maïs ivoirien au Canada. Voilà pour le sommaire. Le journaliste béninois, ancien directeur de Radio de la Paix, mais avant de ONUCI FM, est décédé hier 7 mars au Bénin. Nous recevons Francis Cassie pour son hommage.
Journaliste d'un professionnalisme achevé, Sylvain Félix Sémilenko s'est éteint dans la matinée de ce jeudi 7 mars à Abomey-Calavi au Bénin. Il fut rédacteur en chef du BBC Afrique, British Broadcasting Corporation, la radio britannique, de 1996 à 1998, puis son directeur de 1998 à 2004. De 2004 à 2006, directeur de la rediffusion et de l'expansion Afrique francophone du BBC World Service à Londres, au Royaume-Uni. Il a également dirigé la radio de la mission de l'ONU en Côte d'Ivoire, ONUCI FM, de 2006 à 2017, et a entamé le démarrage de Radio de la Paix, la continuation de la radio onusienne jusqu'en décembre 2017 de cette année. Ce grand nom de la presse africaine et internationale d'origine béninoise a par ailleurs signé beaucoup d'enquêtes, de grands reportages et de tribunes pour le compte des médias de grande réputation internationale à l'image du journal français Le Monde. Il a longtemps travaillé comme consultant pour des organismes internationaux. Né le 20 février 1961, Sylvain Sémilenko a rangé à jamais le micro depuis le jeudi 7 mars. Adieu maître.
Merci à vous Francis Cassie pour cet hommage. Retour sur la vie de ce journaliste, grand journaliste également, qui a dirigé Radio de la Paix. Et dans cette édition, nous recevons Brouconan Bertin, journaliste également ici à Radio de la Paix. Il est le chef de service des programmes et de la production. Bonjour Monsieur Brouconan.
Bonjour Linda Ballier.
Alors, c'est cette nouvelle qui est tombée hier et reçue ce matin par les agents de la radio. Et donc, votre hommage, qu'est-ce qu'on peut retenir de cet homme au plan professionnel?
J'avoue, Linda, que je ne m'attendais pas à rendre hommage à Sylvain Sémilenko dans cette posture parce que je ne m'y attendais pas du tout. Il y a à peu près un an, en consultant mon portable tout à l'heure, on s'est parlé au téléphone et il a demandé des nouvelles de la radio, Radio de la Paix, et nous a apporté ses encouragements pour que nous puissions achever l'œuvre, continuer l'œuvre telle que le souhaitait par le président Ouattara, parce que, il faut le dire, Radio de la Paix, dans sa configuration actuelle, fait partie, n'est-ce pas, des chantiers élaboré par Sylvain Sémilenko. Donc c'est un grand professionnel qui s'en va. Ça, sans hypocrisie, hein, parce qu'on a l'impression que c'est quand les gens meurent qu'on leur trouve des qualités. Je n'entrerai pas dans d'autres considérations, Mais pour ce qui est du professionnalisme, c'est un professionnel achevé. C'est un homme, pas un passionné de la profession. Imaginez-vous, dès qu'il est arrivé, après une conférence de rédaction, on avait un sujet, et le tout directeur qu'il est, il est rentré dans son bureau, il est allé, il a pris son papier, il est allé enregistrer, qu'on a diffusé. C'est dire qu'il avait vraiment cela dans le sang. C'est un grand professionnel, voilà.
Et donc, vous en parliez tout à l'heure, hein, il a été maître d'œuvre de ce passage entre ONU-CFM et Radio de la Paix. Comment est-ce que ça s'est passé, cette étape?
Bon, il faut dire que Semilenko, tout à l'heure vous me présentiez comme chef du service des programmes, mais je pense que je suis ici parce que j'ai été un de ses plus proches collaborateurs. À ONU-CFM, il m'a fait l'honneur de me nommer rédacteur en chef adjoint, chargé du suivi éditorial des programmes spéciaux et du sport. Et c'est un poste qu'il a créé parce qu'il a vu les qualités humaines qui étaient les miennes et à travers moi, les autres confrères ivoiriens. Et parce qu'à l'ONU, c'était les internationaux qui dirigeaient. Mais pour opérationnaliser, n'est-ce pas, le fonctionnement de la radio, il a préféré avoir quelqu'un comme un national. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est fort, n'est-ce pas, de cette collaboration qui a amené les autorités ivoiriennes à souhaiter la continuation du signal d'ONU-CFM à travers Radio de la Paix. Nous avons continué. Donc, lui, il est resté directeur. Et puis, en temps, le rédacteur en chef étant parti, il m'a fait l'honneur de me nommer rédacteur en chef. Et donc, c'est en sa compagnie que nous avons conduit la transition de ONU-CFM à Radio de la Paix. Et bon, au plan administratif, c'est lui qui a fait toutes les démarches. Et puis, bon, pendant ce temps, nous étions sur le terrain pour faire continuer l'œuvre de diffusion. Parce qu'entre-temps, nos effectifs s'étant réduits, donc il fallait vraiment se couper en quatre pour pouvoir faire le travail. Et c'est ce que nous avons fait.
Mmh. Et vous l'avez très bien fait, Radio de la Paix continue d'émettre, d'être diffusée, d'être écoutée partout sur le territoire national ivoirien. Merci à vous, M. Broukonan Bertin, pour ces instants, pour ce témoignage sur la vie, surtout professionnelle, du premier directeur de Radio de la Paix, en la personne de Sylvain Semilenko, que son âme repose en paix. Et comme on le dit ici en Côte d'Ivoire, Yako à tous les agents de Radio de la Paix, à sa famille et tous ceux qui l'ont connu.
Vraiment, c'est vraiment une grosse perte, n'est-ce pas, pour la profession.
Merci beaucoup. Aujourd'hui, 8 mars 2024, le monde entier célèbre les droits de la femme à travers la journée internationale qui lui est consacrée. En Côte d'Ivoire, le thème choisi par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour cette année est « Investir en faveur du rôle mobilisateur et de la participation des femmes et des filles pour la paix ». Nous vous proposons à cet effet un extrait de l'allocution officielle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres.
À cette journée internationale des femmes, nous honorons les femmes et les filles du monde entier et nous saluons tous les résultats qu'elles ont obtenus dans la lutte pour l'égalité. Les femmes et les filles ont réalisé des progrès considérables en renversant les barrières et en montrant la voie du progrès vers un monde plus juste et plus égalitaire. À cette journée internationale des femmes, nous sommes aux côtés des femmes et des filles qui luttent pour leurs droits et nous nous engageons à accélérer les progrès. Le thème de cette année, investir en faveur des femmes nous rappelle que pour mettre fin au patriarcat, il faut mettre de l'argent sur la table. Nous devons soutenir les organisations de femmes qui sont en première ligne de ce combat. Les droits des femmes constituent un chemin sûr vers des sociétés équitables, pacifiques et prospères. Ils sont bénéfiques pour nous toutes et tous. Ensemble, prenons des mesures urgentes pour en faire une réalité.
Together, let's take urgent action to make it a reality, and I thank you.
Vous venez d'écouter un extrait de l'allocution officielle du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, sur la journée internationale des droits de la femme. Et puis l'Union européenne, à travers son ambassade en Côte d'Ivoire, célèbre également cette journée. Et cela à travers un panel sur l'autonomisation de la femme à San Pedro. Tenu jeudi dernier, ce panel a réuni les femmes leaders dans la cacao culture et les femmes de bien d'autres secteurs d'activité. Les détails avec notre correspondant sur place, Kofi Benson.
Renforcer l'autonomisation économique des femmes, défis et solutions, tel était le thème du panel pour Francesca Di Mauro, ambassadrice de l'Union européenne. Ce cadre d'échange vise à recueillir les préoccupations des femmes afin d'y apporter des solutions.
Pour vraiment discuter de quels sont les obstacles, les défis qu'elles ont en termes de leur autonomisation économique et aussi quelles sont les solutions. Il faut en parler de la question de l'harcèlement auquel elles se sont battues. Elles ont dit non à l'harcèlement d'autres hommes. Ici, l'appui que nous donnons, ce sont des projets que nous mettons en œuvre via des banques locales qui vont donc après prêter l'argent à ces entreprises féminines.
Pour Doumbia Sata, présidente de ECAM, entreprise coopérative des agriculteurs de Béagui, voir une femme à la tête de grandes structures signifie surmonter de nombreux obstacles.
Pour avoir le financement, c'est vraiment difficile pour les femmes. Pour avoir la parole, c'est difficile pour la femme. Pour avoir la terre, c'est difficile pour la femme. Tous ces pesanteurs-là n'est pas facile pour pouvoir s'élever. On a partagé ces expériences de sorte qu'on puisse comprendre qu'il ne faudrait pas qu'on voit que la réussite, c'est du jour au lendemain, c'est un processus qu'il faut s'inscrire.
La jeune Jekebel Akaki, ce panel est une expérience bénéfique.
Dans l'entrepreneuriat, il faut beaucoup de courage parce qu'il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir atteindre l'objectif qu'on se fixe. Quand tu vois avec ceux qui peuvent nous livrer des produits, ils te font des propositions indécentes. Mais il faut vraiment avoir un objectif. Tel que la maman l'a dit, il faut respecter son corps, surtout avoir de la dignité.
Ce panel a réuni les femmes venu des quatre coins du Bassa-Sandra. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
La femme également acteur majeur dans la cohésion sociale. Cet effet, la plateforme nationale du dialogue interreligieux contre l'extrémisme violent, avec le soutien financier de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, a mené des missions du 27 février au 1er mars dernier dans plusieurs localités. L'objectif était d'informer et sensibiliser les populations en mettant l'accent sur la participation des femmes à la cohésion sociale. L'imam Sanogo Mamadou a présenté les résultats de ces missions. Nous l'écoutons.
L'extrémisme violent, le radicalisme, ces voies de désordre-là rentrent à travers plusieurs maillons faibles. Le premier maillon faible, c'est quand il n'y a pas de cohésion sociale. L'un des maillons aussi, c'est les femmes. Et aussi, la femme, c'est elle qui éduque nos enfants. C'est elle qui sont proches de nos enfants parce que nous, on va travailler. Donc, celui qui a pu sensibiliser la femme a pu sensibiliser la communauté. Parce que le ministre de l'Intérieur, dans la famille, c'est la femme. C'est celle-là qui est un soutien important. Et chez nous, en islam, on dit le paradis de l'enfant se trouve au pied de sa mère. Donc, il était important que nous puissions nous intéresser à cette frange de la communauté-là. Et surtout dans ces localités-là, qui sont beaucoup traditionnelles. Quand c'est comme ça, souvent la femme n'a pas toujours droit à la parole à tout moment, à tout instant. Donc il était important, à travers ces plateformes-là, qu'on puisse mettre aussi les femmes en mission pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans ce processus-là, de telle sorte que les hommes aussi vont sentir ce poids de soutien de ces femmes-là.
Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme. Est-ce que vous pensez que le travail que vous êtes en train de faire pourra accompagner les femmes à promouvoir leurs droits?
Oui, parce que à travers la création de ces plateformes-là, nous sommes en train de dire que la femme a son mot à dire dans la vie de la société. La femme a des solutions à porter pour que la société se porte bien.
À l'instant, l'imam Sanogo de la plateforme nationale Dialogue interreligieux au micro de Jean-Claude Mabéa. Parlons économie. Hier jeudi, le président de la République Alassane Ouattara s'est entretenu avec le président directeur général d'Eni, Claudio Del Scalzi, qui a annoncé la découverte d'un nouveau gisement de gaz naturel et de pétrole très léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Ce nouveau projet va nécessiter un investissement d'environ 3 600 milliards de francs CFA, suivant le compte-rendu avec Jean-Claude Mabéa.
Le président Alassane Ouattara s'est réjoui des échanges qu'il a eus avec son hôte du jour.
Eni a découvert il y a 3 ans le gisement baleine qui nous permettra de monter en puissance dans la production de gaz. Également, nous aurons le plaisir honoré de recevoir le président d'Italie début avril pour une visite d'État. C'est montrer les liens forts qui existent entre la Côte d'Ivoire et l'Italie. J'ai eu l'occasion de rendre visite à sa sainteté le pape également. également l'année dernière. Et aujourd'hui, le président Del Kazi est venu nous annoncer une deuxième bonne nouvelle.
Le président directeur général Denis a annoncé une grande découverte de gaz naturel et de pétrole très léger dans le bassin sédimentaire offshore de la Côte d'Ivoire. Claudio Descalzi.
Aujourd'hui, on a annoncé une nouvelle découverte du gaz avec du condensé, donc de l'huile très léger associée. On parle d'une découverte d'entre 1 milliard et 1 milliard et demi de barils équivalents. Donc c'est du gaz et du pétrole très léger, de l'huile très léger. C'est une grande découverte. On vient de faire, on vient de l'analyser. Donc on va travailler rapidement avec le ministère pour essayer d'arriver très rapidement aussi pour cette nouvelle découverte.
Il a également révélé que des investissements dans le domaine social, notamment la formation, l'éducation, la santé, la conservation de la forêt et l'agriculture sont prévus dans le cadre de cette coopération.
Et après cette visite, le président ivoirien a reçu en audience au palais présidentiel son homologue libérien Joseph Nouama Boakai. Leur entretien a porté sur les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Libéria, ainsi que sur la situation sécuritaire de la sous-région. Alassane Ouattara.
Comme vous le savez, nos pays sont non seulement voisins, mais les relations sont anciennes, historiques et pleines d'amitié et de fraternité. Et cela, nous en sommes très fiers et très heureux. Président, je voudrais donc à cette occasion non seulement me féliciter de la qualité de ces relations, mais aussi vous réaffirmer notre volonté de consolider davantage cette coopération, notamment dans les domaines agricoles, miniers et énergétiques. Je voudrais aussi vous dire que le gouvernement du Premier ministre Robert Begré-Mambé est disposé à travailler étroitement et en bonne intelligence pour renforcer la coopération entre nos deux pays. Et je souhaite que votre mandat se passe dans d'excellentes conditions et vous savez que vous pouvez compter sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Libéria et surtout continuer notre travail en matière de sécurité et de défense afin de garantir la paix et la stabilité non seulement entre nos deux pays mais également en Afrique de l'Ouest.
À l'instant, le président ivoirien Alassane Ouattara, son homologue libérien, s'est quant à lui dit fier des performances de la Côte d'Ivoire dont il entend s'inspirer pour développer son pays, notamment dans le secteur de l'agriculture. Joseph Nouama Boakai a par ailleurs fait un plaidoyer pour la fourniture totale d'énergie prévue dans le contrat d'achat d'octobre 2022. On l'écoute au sortir de cette audience.
Excellence, nous avons une longue liste de vos actions formidables que vous avez su mener et qui ont contribué à améliorer nos relations et qui ont encore aidé le Libéria à grandir, surtout dans les domaines de l'électricité et de l'agriculture.
Excellence, sur la base des accords signés pour la livraison d'environ 50 mégawatts, au moment où je vous parle, nous ne recevons que la moitié. Avec la saison sèche, la rareté des pluies, nous savons qu'il y aura encore des difficultés. Nous sommes là pour faire surtout ce plaidoyer pour pouvoir avoir la capacité totale. Excellence, vous nous avez rendu tellement fiers avec vos performances économiques qui ont permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre ce niveau aujourd'hui. Nous sommes là pour apprendre de vous. Nous savons également que l'agriculture porte des fruits ici en Côte d'Ivoire, le cacao, l'huile de palme. Et nous pensons que nous pouvons apprendre de la technicité appliquée en Côte d'Ivoire pour avancer. Excellence, nous nous préoccupons de nos frontières, des renseignements qui nous donnent des informations régulièrement et nous pensons que nous pouvons les utiliser pour aider au bien-être de nos populations de façon régulière. Excellence, Monsieur le Président, le Libéria voudrait vous rassurer que en aucun cas nos frontières serviront de moyen ou de voie pour déstabiliser la Côte d'Ivoire.
Joseph Nouama Boakai, président de la République du Libéria, signalons que le président libérien a été élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre National au cours du déjeuner officiel qui a clos cette rencontre. Dans l'actualité internationale, alors que les combats se poursuivent à l'est de la République démocratique du Congo, dans la province du Nord Kivu, et que les rebelles du M23 gagnent du terrain, Denis Mukwege appelle les Nations Unies à suspendre le retrait de la mission de maintien de la paix dans le pays. Dans sa lettre ouverte au Conseil de sécurité le 5 mars, Denis Mukwege invite les Nations Unies à reconfigurer le mandat et la présence de cette mission afin d'effectuer un retrait responsable et durable. Et maintenant, place à l'invité de la rédaction, Serge Digbay, directeur régional de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers, parle de l'exportation du maïs ivoirien au Canada. Il est interrogé par notre correspondant à Oudiné, Bakary Touré Lapas.
Monsieur le directeur régional de l'OCPV, bonjour.
Bonjour, monsieur Abbas.
Dans votre sphère d'intervention, la culture du regroupement fait défaut, selon qu'on soit dans la région du Kabadougou, même du Folon. Et aujourd'hui, sans regroupement, pas de financement. En tout cas, pas de financement émanant de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, comment inverser la tendance et comment inculquer la valeur d'union et de regroupement au Kabadougouka?
Nous avons commencé. Vous savez, quand on a étudié un peu les causes profondes qui amènent ces acteurs à ne pas se mettre en groupe, il y a la question de confiance. Et les populations ici, ils n'ont pas la culture des GVC, encore moins des sociétés coopératives. C'est des groupes d'amis, des groupes de familles. Mais il faut transformer ces organisations informelles-là en sociétés coopératives. Il y a ce premier niveau. Le second niveau, c'est qu'il y a des coopératives qui sont créées et elles sont adossées à la personne d'un seul individu. Il faut leur dire qu'une coopérative, là, n'est pas l'affaire d'une personne. Alors nous allons descendre au plus bas pour communiquer autour de ces valeurs-là.
Ben, au moment où ces problèmes sont posés, il y a qu'aujourd'hui, on vient de vous passer une commande de 200 000 tonnes de maïs à produire chaque mois. Une commande émanant du Canada. Alors est-ce possible de pouvoir y faire face?
Face à cette demande-là, la question la plus fondamentale à laquelle il faut trouver réponse immédiatement, c'est d'identifier les acteurs. Qui sont-ils? Est-ce les citoyens lambda dispersés à travers tout le pays ou des structures organisées, structurées et qui ont un objectif précis en termes de production et de commercialisation. Et je pense que cette option-là est la plus importante. Identifier ce qu'ils peuvent produire et évaluer également les capacités de production. Et en pensant de ça, on pourrait projeter. Même si on ne peut pas satisfaire 200 000 tonnes par mois, on pourrait au moins donner du travail à ces acteurs-là. Et qui dit travailler, ça veut dire que créer de la richesse pour soi-même et pour sa communauté.
Alors, jusqu'à quand la Côte d'Ivoire, dont le succès repose sur l'agriculture, peut-elle s'autosuffire en matière du vivrier? Alors, je vous pose la question parce que la crise russo-ukrainienne s'est ressentie dans nos assiettes ici en Côte d'Ivoire.
En Côte d'Ivoire, nous nous autosuffisons en matière de produits vivriers. Le seul hic, c'est la maîtrise de la production pendant les périodes de disette. Donc, si nous maîtrisons l'eau à travers l'irrigation, nous pensons résoudre le problème du manque de certains produits, de certaines saisons. Il y a la question liée à la pression des commerçants des pays limitrophes sur nos produits locaux. Et là, l'État a pris des décisions, notamment l'autorisation préalable à l'exportation. Nos autorités ont pris également une mesure suspensive de l'exportation du riz local pour pouvoir vraiment réduire au maximum la fuite des produits que nous produisons ici vers les pays limitrophes.
Malgré ces dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a que des produits, notamment le riz, le maïs et le carburant, et continuent de passer de l'autre côté de la frontière, au vu aussi de tous. Alors, à quand donc la fin de cette hémorragie?
Au niveau local, nous sommes en train de travailler avec nos autorités sur cette question et nous pensons qu'elle sera résolue d'ici peu.
Le projet Soja vient d'être relancé dans le district autonome du Dinguélé par l'État de Côte d'Ivoire à hauteur de plusieurs milliards. Le hic est que lors de la présente campagne, il n'y a pas eu de baptême pour les récoltes. Et en désespoir de cause, les récoltes aujourd'hui se font à la main. Alors, ma préoccupation est la suivante. Peut-on produire à grande échelle sans la mécanisation?
Non. Nous ne sommes plus à l'époque des résultats rudimentaires. Le cas du soja que vous venez d'évoquer, il s'agit de la question de la récolte et puis du conditionnement. Là, c'est une question que nous avons déjà adressée. Nous pensons que qui des droits va pouvoir répondre. Mais comme ce sont des activités ponctuelles, vous comprenez que c'est quand on arrive à la saison de la récolte que la problématique se pose. Et pourtant, cela devait donner lieu à une rencontre des acteurs pour réfléchir depuis les semis jusqu'à la récolte, comment s'y prendre. C'est la même question que nous nous posons, que les acteurs se posent, même quand il s'agit de pouvoir faire la commercialisation. Les producteurs produisent en masse, Et c'est quand ils arrivent à la récolte qu'ils viennent voir le CPV pour qu'on les trouve les débouchés. Alors qu'il faille bien structurer la démarche depuis les semis, solliciter le CPV.
Ma dernière préoccupation est relative, elle, au projet des 40 marchés de gros initiés depuis un an. Alors aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec ce programme?
Nous sommes à la fin des finitions et nous pensons que d'ici peu, on pourra inaugurer l'ensemble des marchés de proximité.
Monsieur Serdi Bailly, directeur régional de l'ECPV pour les régions du Kabadougou, du Folon et du Bafing, merci.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction, Serge Digbaï, directeur régional de l'OCPV, l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers. Il était avec Bakary Touré Labas, notre correspondant dans le Kabadougou. Et c'est ici que prend fin cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. La radio de la paix est en deuil. Son directeur précurseur, journaliste béninois, est décédé hier jeudi 7 mars. Un hommage lui a été rendu en début de cette édition avec Francis Cassi et le chef de service des programmes et de la production de Radio de la paix, Brooke Conan-Bertin, qui a témoigné du professionnalisme de feu Sylvain Semilinko. Et puis ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits de la femme et à l'instar des institutions ivoiriennes, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme célèbre cette journée en mettant en avant la participation des femmes et des filles à la paix. Merci à vous de nous avoir suivis. La revue de la presse ivoirienne, c'est avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. En ce 8 mars 2024, dédié à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, cette pensée de Léon Tolstoï, célèbre écrivain russe des années 1890, qui déclare « Femmes, c'est vous qui tenez entre vos mains le salut du monde », traduit bien les efforts des Nations Unies pour la reconnaissance de la place de la femme dans la société. Et cette Journée internationale, explique dans Soir Info, Nassénéba Touré, la ministre de la Femme, permet à la Côte d'Ivoire de réfléchir sur comment lutter contre la pauvreté.